France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'écrivaine Marie Darrieussecq qui vient de publier « Pas dormir » aux éditions POL, un livre qu'on pourrait qualifier d'essai autobiographique illustré, une sorte d'autoportrait de ses nuits blanches et de toutes les méthodes entreprises pour tenter de retrouver ce sommeil envolé. Un ouvrage dans lequel bien des insomniaques se retrouveront, car si l'on en croit une note de la Fondation Jean Jaurès, publiée ces derniers jours, ce mal est très répandu, la société dans son ensemble serait fatiguée.
On peut être insomniaque par fatigue, et donc on se réveille la nuit, comme pour continuer son travail, ouais. Et que le temps qu'on n'a pas dans la journée, ben on le prend en quelque sorte la nuit, ce qui est évidemment un cercle de fatigue dont ensuite on n'arrive plus à sortir.
Pourtant, il y a des solutions, Marie Darrieussecq, qui a tout essayé, nous dira lesquelles. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. Il sera notamment question de la présidentielle de Joséphine Baker et des migrants après le naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à 27 personnes. Une situation aussi dramatique qu'absurde pour les humanitaires qui leur viennent en aide à Calais.
Parmi les personnes décédées depuis septembre à Calais, ce sont pour certains des personnes qui avaient une chambre qui les attendait au Royaume-Uni. Un oncle, une tante, un endroit où aller se reposer. Et d'ailleurs, ces membres de famille-là, lors de deux enterrements, des membres de famille du Royaume-Uni étaient présents, sont venus à Calais.
Reportage de Faustine Calmel à suivre, on en parlera donc avec Marie Darrieussecq qui a écrit « La mer à l'envers ». Marie Darrieussecq qui était partie à la rencontre des migrants ici et ailleurs. À 19h, le journal d'Hélène Philly, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, la parole aux magistrats. Ils sont plusieurs milliers à avoir signé une tribune pour dire les difficultés de leur métier. Alors, si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment ou jamais d'appeler le 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Clémentine Ducasse pour la page web, ainsi qu'à ceux qui sont à la technique ce soir, Louis Audebert, Ludovic Asselot et Jenab Sangaré.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Marie Darrieussecq.
Bonsoir Claire Servageant.
Vous publiez donc « Pas dormir » aux éditions POL. Et vous écrivez « Ce livre est le résultat de 20 ans de voyage et de panique dans les livres et dans mes nuits ». Alors, quelle est la genèse de ce livre ?
Ça faisait un moment que je prenais des notes sur ce qui se passait la nuit. Et je crois que c'est lors d'une crise particulière d'insomnie que je me suis dit, mais si j'écrivais tout ça, peut-être ça irait mieux. Bon, ça n'a pas marché, hein. Mais ça a donné ce livre un peu bizarre qui suit la forme de l'insomnie. C'est-à-dire, c'est un livre assez labyrinthique, délibérément un peu chaotique.
Mais voilà. Que vous n'avez pas écrit d'un jet, hein. Vous l'avez
non.
Pris, repris, reposé. Vous
oui, c'était recommencé. Vraiment au rythme des insomnies et parfois évidemment de la journée, mais les idées me venaient comme ça. Et puis surtout la nuit, et comme beaucoup de gens, je lis. Enfin, comme beaucoup d'insomniaques, je lis. Et je me suis aperçue que tous les auteurs que j'aimais étaient insomniaques, en fait. Et ça m'a tenu compagnie.
C'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Et oui. Vous dites déjà, à la rubrique du plus grand livre des somnifères, il y a « À la recherche du temps perdu » et il y en a plein d'autres.
Eh oui, Proust était un grand spécialiste des somnifères. Il avait un peu essayé tout ce qui était disponible à l'époque, dont le Véronal. Mais c'est lui qui a parlé le premier à ma connaissance de ce qu'il appelle la méthode Brissot, c'est-à-dire de regarder la boîte de somnifères, d'avoir la boîte. Parfois, ça suffit. C'est rassurant. Mais je parle aussi du piège terrible que sont les somnifères.
Hein. Alors, vous avez fait le choix d'un livre illustré. Il y a des dessins, des photos, des archives, des croquis. Pourquoi ce choix, Marie Darrieussecq ?
Parce que je refusais effectivement de faire un plan. Parce qu'il n'y a pas de plan à l'insomnie. Je crois que chaque insomniaque a sa propre insomnie. Mais il y a des thèmes communs et des formes communes. En particulier, il y a le ressassement, la spirale, le labyrinthe, l'idée fixe. Parfois aussi le vide, hein, ou l'ennui, enfin, la méditation, ça peut marcher. Hein. Mais les images viennent la nuit, comme ça il y a des flashs d'images, et je me suis aperçue qu'elles me permettaient de passer d'une idée à l'autre par association, et de renoncer au plan cartésien, vous savez, en trois parties, là, un peu comme nous a mis dans la tête à l'école, et qui n'est pas du tout celui des insomnies.
En tout cas, c'est un bon livre si on a des insomnies la nuit. On comprend que vous avez tout tenté contre les insomnies, notamment d'abord les somnifères, oui. Je vous cite, je carbure aux barbituriques, je savoure les soporifiques, je biberonne aux benzodiazépines, je végète aux sédatifs, je narcose aux hypnotiques. Rien que de le lire,
il y a une chanson de Dutronc.
Ça
qui est
fait
comme
mal,
ça.
Hein.
Oui, ça fait un peu chanson. Mais oui, j'ai tout essayé. Et effectivement, tout ce qui est tous les médicaments en Z là sont très addictifs et c'est difficile de s'en passer. C'est ça le problème.
On est effrayé hein, par tout ce que vous avez avalé.
Ben oui, en plus, le piège du somnifère, c'est que c'est objectivement dangereux. C'est-à-dire, à 4h du matin, c'est toujours une très mauvaise idée d'en prendre à 4h du matin. Mais en fait, des fois, on craque, on n'en peut plus de pas dormir. Il faut évidemment pas conduire après dans la journée, etc. Ça, bon, ce sont des préceptes de bon sens. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il arrive de se rendormir un peu et puis de se réveiller et on a oublié qu'on en a pris un. Et il peut arriver effectivement de tendre la main comme ça vers le... Et ça, c'est objet... Enfin, moi, ça m'a fait peur à un moment.
Alors, vous avez aussi essayé des choses plus douces, les tisanes.
Oui, bon, ça, à moins de les fumer, moi, ça me fait rien, mais bon.
L'acupuncture, je cite.
Alors, l'acupuncture, ça marche pas mal, mais ça marche pour moi le soir même. Comme l'ostéopathie crânienne, qui est un bonheur, c'est merveilleux. Mais il faudrait que tous ces praticiens soient là, au chevet de mon lit de princesse au petit pois, et me massent le crâne, me mettent des aiguilles dans la cheville, et alors, je dormirai tous les soirs. Mais enfin, on peut pas vivre comme
on
ça.
On peut pas faire ça tout le temps. Non. Vous avez essayé, je continue la liste, le yoga.
Oui. Alors, c'est ça le paradoxe de... Femme détendue n'est pas femme qui dort, c'est ça mon problème. Je peux être parfaitement relaxée, détendue, il y a des yogas formidables, le yoga nidra en particulier, la méditation, ça peut être bien, toutes ces applications. Alors le paradoxe de l'application, c'est qu'elle est connectée au beau milieu de la nuit, mais bon, passons, mais qui vous demande de vous détendre du bout de l'orteil jusqu'au haut du crâne, ça marche, mais ça marche pour détendre le corps et l'esprit. Mais moi, il n'y a pas de lien entre la détente et le sommeil. Il y a quelque chose qui est cassé, là, pour moi. Et je crois que c'est quelque chose qu'expérimente pas mal d'insomniaques.
Alors, vous avez essayé aussi le jeûne.
Oui. Alors, le jeûne... Ça, j'espère qu'il y a, dans ce livre, une espèce de comique de répétition, parce que l'insomnie, pour moi, c'est un ratage permanent. C'est-à-dire, tout ce que je tente échoue. Et alors, je suis partie jeûner dans un monastère formidable, dans un calme absolu, dans un bon lit. Alors, on bouffe pas de la journée, bien sûr, on boit pas de café, on boit surtout pas d'alcool, bien sûr, c'est terrible. On marche toute la journée, on se fait masser les pieds, etc. Et hop, bouillon et au lit. Alors moi, pendant 5 nuits, j'ai pas dormi, c'est un cauchemar. Et effectivement, la 5e, j'ai dormi comme un plomb. Mais ça me faisait rire moi-même au réveil, parce que pour en arriver à enfin une nuit de sommeil, il avait fallu que je vive...
Un enfer.
Une vie de patachon, mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas s'occuper toute la journée de préparer sa nuit. Et par moments, j'en étais là.
L'hypnose aussi, vous avez essayé?
Alors, moi, je suis. Un de mes problèmes, c'est que. Je suis hyper vigilante. C'est le diagnostic qu'on a fini par me poser une fois que je me suis faite tester avec des électrodes partout, etc. Il y a des photos de ça dans le bouquin aussi.
Donc c'est difficile l'hypnose pour vous?
Bah oui, parce que je suis aux aguets. Et puis moi je suis romancière, donc le personnage de l'hypnotiseur, j'en ai essayé plein. C'est des gens extraordinaires, donc moi ça m'intéresse trop. En fait, il y a aussi cet aspect joyeux de l'insomnie. C'est que la vie est trop intéressante et je n'arrive pas à la lâcher. Et comme disait votre journaliste, votre reporter, ce que je n'ai pas réussi à faire dans la journée, je peux pas m'empêcher d'y penser la nuit de m'y mettre. C'est ça aussi le problème de l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça déborde partout, et la lecture, évidemment.
Alors, je pense que vous faites référence à cette philosophe qu'on a entendue dans les titres et qu'on va réécouter dans quelques instants. Mais je finis juste la liste des méthodes que vous avez testées. Il y a aussi, parce que ça m'a quand même beaucoup amusé, la gravity blanket. Il faut que vous nous expliquiez. Je traduis, ça veut dire quoi? Couverture lourde.
Alors, j'ai essayé tous les gadgets possibles. Alors, celui-là, il est pas mal. C'est une couverture très, très, très lourde. Donc, il y a un côté un peu utérin, quoi. On est serré dans son lit sous cette couverture qui vous écrase. Alors, je l'ai faite venir du bout du monde. Enfin, c'était avant le Covid. C'était le monde ancien. Elle est arrivée de Chine, je suppose, à Roissy. Enfin, j'ai tenté des trucs un peu extrêmes. Mais cette couverture très lourde, très lestée, avait beau certes avoir un côté apaisant, elle glissait la nuit et donc elle faisait boum. Et alors elle me réveillait en sursaut, ou alors elle me coinçait les genoux dans une situation douloureuse, donc ça me réveillait aussi. Donc, l'ironie est très paradoxale. C'est-à-dire que vous faites tout pour dormir et vous ne dormez pas. L'ironie vous regarde du coin de l'œil malicieux, comme ça on dirait un petit lutin, elle vous tire par les orteils. Tout ce que vous tentez échoue. Et c'est là qu'effectivement il faudrait lâcher prise, mais moi j'ai du mal, je sais pas faire.
Alors on va écouter cette philosophe.
Absolument.
Dont on a entendu un tout petit extrait tout à l'heure, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas la seule à avoir des problèmes de sommeil, Marie Dorieussecq. De nombreux Français sont dans ce cas-là. La société dans son ensemble serait fatiguée, c'est ce que souligne donc cette note de la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée ces derniers jours avec le concours de la CFDT et de l'Institut Ipsos. C'est donc la philosophe Hélène Leuillet que vous avez entendue. Elle était dans le journal de 13h de Bruno Duvic avant-hier.
On peut être insomniaque par fatigue. Laquelle fatigue elle-même a des causes diverses, peut venir des injonctions incessantes qui ne s'arrêtent pas, et donc on se réveille la nuit, comme pour continuer son travail, ouais. Qui vient d'une forme d'extinction du désir, tout ça va ensemble aussi, qui fait qu'on n'a plus de projection dans l'avenir, et que le temps qu'on n'a pas dans la journée, ben on le prend en quelque sorte la nuit, ce qui est évidemment un cercle de fatigue dont ensuite on n'arrive plus à sortir.
Et d'un état individuel à un état collectif, une société fatiguée, c'est le titre de cette note de Jean.
Voilà, bah on a trop tendance en général à séparer ce qui est individuel et collectif alors que ça se répond, et puis c'est bien souvent parallèle.
Allez, vous n'êtes pas toute seule dans votre mal. malheur, Marie Dariussec.
Non, un des livres qui m'avait donné à penser, c'était le livre de Jonathan Crary, Le capitalisme à l'assaut du sommeil, qui est sorti il y a une petite dizaine d'années, mais il était assez précurseur et effectivement, il montrait comment la connexion permanente, l'injonction permanente à réagir, à liker, etc., à être présent, comme on dit, sur les réseaux sociaux, c'est terrible, être présent sur les réseaux sociaux. Rien que cette phrase est dingue, en fait. Il y a un côté complètement... vraiment dingo à notre monde. Mais ça commence dès le Moyen-Âge. Il y a un autre livre de Robert Ekirch sur une histoire de la nuit, qui a été traduit récemment en France, qui montre que c'est dès la fin du Moyen-Âge, à partir du moment où les États-nations éclairent les rues, que l'État commence à s'occuper de notre sommeil, c'est-à-dire de qui doit dormir et de qui doit veiller. Alors les boulangers ont le droit de veiller, les sentinelles qui font le tour de la cité ont le droit de veiller, mais nous, les citoyens, on est sommés de dormir et celui qui rôde dehors dans les rues est mal vu. Donc l'État a pris en charge notre sommeil et il y a une surveillance de ce sommeil et aussi, c'est très paradoxal, une injonction à être tout le temps disponible, voilà. Et ça nous tue, ça. C'est très contradictoire.
Alors, je voudrais qu'on en vienne aux raisons de cette difficulté à dormir, Marie d'Arrissa, parce que vous n'avez pas toujours été insomniaque, en fait. C'est l'arrivée de votre premier enfant qui a provoqué tout ça.
C'est très...
Le fameux bébé.
J'avais écrit un livre qui s'appelle Le bébé. Alors, je ne veux pas lui faire porter la montagne de mon insomnie. Maintenant, il a 20 ans, il se débrouille très bien sans moi. Mais effectivement, comme beaucoup de parents et de jeunes mères, je me suis retrouvée dans cette vigilance qui est normale quand on a un nourrisson. C'est normal de perdre le sommeil tant que le bébé ne fait pas ses nuits. Mais moi, j'ai défait les miennes à mesure que les bébés, j'en ai eu 3, ont fait les leurs. Et ce qui devient pathologique, c'est de ne pas retrouver le sommeil. Et je me suis retrouvée dans une forme de... C'est aussi une mégalomanie, hein, l'hypervigilance. C'est-à-dire que vous vous dites, si je m'endors, il va arriver une catastrophe. Alors que pas du tout. Quand je dors, je vois que le matin, le monde a continué de tourner, hein, ça va. Enfin, ça ne va pas, mais enfin, le monde continue de tourner. Et c'est un peu comme si j'étais le pilote d'un avion et que si je m'assoupissais, l'avion allait se crasher. Et en fait, c'est très répandu. C'est une des formes les plus banales de l'insomnie.
Et puis, il faut dire aussi que, quand il y en a un, c'est déjà du boulot, des bébés. Deux, c'est du boulot. Trois, oui. Alors là, là, c'est du surmenage. Vous racontez l'heure du bain, notamment, oui. C'est vrai, quand il y en a 3 comme ça, toute l'enfance de mes enfants, j'ai été admise saoule parce que du coup, vous êtes allé chercher de l'aide, notamment dans l'alcool, vous le racontez.
C'est vrai que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans cette partie du monde, les jeunes mères n'ont pas beaucoup d'aide, elles en trouvent, mais en fait pas assez. Et heureusement que le congé des pères s'allonge, parce que moi, à l'époque où j'ai eu mes bébés, j'ai un mari formidable, mais en fait, il n'était pas très présent, parce que son boulot le requérait. Et je me trouvais à 18h en ayant très très mal dormi la nuit d'avant et toutes les nuits d'avant, et je trouvais mon recours en bonne desperate housewife, dans un grand bol de vin rouge, parce que c'est vert américain, vous savez. Et j'attendais 18 heures comme ça. Et il y a plein de femmes qui connaissent ça. Enfin, je reçois plein de courriers en ce moment de... Parce que c'est un alcoolisme dont on parle pas beaucoup. Parce que l'alcoolisme, c'est pas du tout une question de quantité. C'est une question de ne pas pouvoir ne pas boire. D'avoir perdu la liberté de ne pas boire. Et effectivement, je me suis retrouvée à être incapable de fonctionner si j'avais pas ce coup de fouet d'un verre, ou de deux, ou de trois. Jamais vraiment plus, mais tous les jours. Et ça, c'est dû à l'insomnie aussi. Je connais beaucoup d'insomniaques qui... Ça aussi, ça m'a beaucoup troublée. On parlera plus tard des migrants, mais des gens qui ont comme ça des grands traumatismes dans leur vie, c'est une sinistre loterie, c'est-à-dire que à traumatisme comparable, disons, il y a ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. Le problème, c'est que ceux qui ne dorment pas, ils se infantent des béquilles pour leur vie, et ça passe souvent par l'alcool. J'ai beaucoup vu ça chez des gens très traumatisés qui ne parvenaient pas à dormir et qui se réfugiaient dans divers stimulants, dont l'alcool. Puis après, il y a la vie banale qui est la mienne. Hein. Mais la moindre fatigue supplémentaire, le moindre souci supplémentaire fait qu'on cherche comment tenir, comment aller jusqu'au bout de la journée. Et je me rappelle que le bain des enfants, qui devrait être un moment béni, le bain de 3 enfants désirés, ça me semblait parfois absolument insurmontable à 18h, 18h30.
Vous n'êtes pas la seule. Hein. Oui. On appelle ça la charge mentale maintenant. Mais Marie Dariussec, ce problème de sommeil, ce problème d'alcool, vous en êtes sortie petit à petit. L'alcool,
on va dire que oui, pour aller vite.
Quand même. On comprend que vous avez rencontré un jour une spécialiste qui vous a prescrit une hygiène de vie très stricte et que ça a marché.
Ça a marché. Cette sainte femme, qui est une psychiatre renommée, une somnologue, ça s'appelle comme ça, m'a effectivement prescrit des préceptes de mon sens, de me coucher toujours à la même heure, et quand je me réveille, même s'il est 4 heures, de me lever, d'affronter la journée. De s'interdire les longues siestes. On a le droit de somnoler une minute, deux minutes, mais voilà, de pas faire une deuxième nuit, comme on dit. Ça marche, mais c'est très difficile. Et moi, j'ai une vie où je n'ai pas à aller au bureau le matin à 8h, où je n'ai pas, comme faisait ma mère, à être prof. Quand on doit tenir une classe de jeunes collégiens, quand on n'a pas dormi la veille, ou quand mon père, il était sur des engins toute la journée dans une fonderie, quand on doit affronter des engins qui peuvent vous bouffer les mains, c'est très très dangereux de pas dormir. Moi, ça va en fait. Moi, j'ai le temps d'écrire un bouquin sur ça. Mais les gens comme mes parents qui devaient affronter une journée, voilà, face à des gamins ou face à des machines, c'est pour ça que c'est devenu un vrai problème de santé publique. Il y a encore 20 ans, quand vous alliez voir un médecin pour l'insomnie, on vous donnait des plantes. Maintenant, on prend ça un peu plus au sérieux, parce que c'est dangereux.
Bien sûr, et puis on en parle, y compris sur l'antenne de France Inter.
Absolument.
La psychanalyse a été très importante aussi, on en reparlera un petit peu plus tard, Marie Dariussec, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin, à la une évidemment cette semaine, la pandémie, qui n'arrange rien à tout ce dont on parle, hein, la présidentielle et Joséphine Becker au Panthéon.
J'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur. Je savais qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Joséphine Becker au Panthéon, une décision d'Emmanuel Macron.
Ce soir, Joséphine Becker entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre.
Joséphine Becker qui fit le choix de la résistance à l'heure où certains tentent de réécrire l'histoire.
Vous ne pouvez pas réhabiliter Pétain et quelques jours après se référer au général de Gaulle.
Jean-Louis Debré à propos d'Éric Zemmour qui a mis en scène sa candidature dans un décor rappelant l'appel du général de Gaulle.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Je croyais au départ que c'était un clip pour Netflix, d'une nouvelle série sur l'apocalypse.
Le député En Marche Bruno Bonnel n'est pas le seul à avoir pris peur en regardant cette vidéo. Son collègue insoumis Adrien Quatennens.
J'ai envie de dire à celles et ceux qui auraient été saisis d'effroi en regardant ce clip, bon, ouvrez les fenêtres, respirez, mettez un air de musique peut-être un peu plus léger. La France de Monsieur Zemmour n'existe pas.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis.
Je partage le déclin qui est décrit dans ce clip.
La force de la volonté, la vérité, la clarté en politique finissent toujours par triompher.
Éric Ciotti, candidat à la candidature LR, tout comme Valérie Pécresse.
Michel, Xavier, Philippe viennent de m'apporter leur soutien. Je veux leur dire toute mon amitié et toute ma reconnaissance. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron.
La droite aura donc un seul candidat, alors qu'à gauche c'est toujours le trop-plein. Les organisateurs de la primaire populaire auront pourtant tout tenté, Mathilde Himmer.
Le message que j'ai aujourd'hui pour Yannick Jadot, pour Anne Hidalgo et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que d'une certaine manière, on les aime, tous les trois. Mais il faut qu'ils arrêtent de déconner.
Et ça, c'est pas gagné. Et maintenant, le Covid saison 3.
C'est évidemment un variant inquiétant.
Omicron est déjà partout, ou presque.
Il nous faudra quand même encore quelques semaines pour prendre la mesure de ce nouvel adversaire.
L'épidémiologiste Arnaud Fontané.
Maintenant, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Pour l'instant, notre ennemi, c'est le variant Delta.
Et contre Delta, gestes barrières et doses de rappel. Mais une fois de plus, ça coince du côté de la vaccination.
J'ai cherché avec les différents sites disponibles. J'ai cherché partout, je ne trouve pas.
Alors Olivier Véran promet une rallonge pour les pharmaciens qui travailleront les week-ends et pour les infirmières qui se rendront chez les patients.
La vaccination au domicile réalisée par les infirmières sera majorée financièrement.
On ne remercie jamais assez les infirmières.
Pour remercier les infirmières de leur très grande mobilisation.
Une petite rallonge à l'approche des fêtes de fin d'année, tout le monde en rêve, surtout que le Covid a fait du mal au porte-monnaie.
Financièrement, avec tout ce qui tombe là, le Covid et compagnie, on n'a pas eu assez de travail, donc forcément, c'est pas possible. Cadeaux, chocolat et tout ça, on diminue.
Ce qui me plaît, c'est que c'est bientôt Noël. Jingle bells,
jingle bells. C'est quand même l'essentiel. Un très grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie de l'écrivaine Marie Dariussec. Je ne sais pas ce que vous retenez dans ce qu'on vient d'entendre, Marie Dariussec.
Joséphine Becker, chanter Joséphine Becker, c'est un bon antidote aux idées d'extrême droite quand même. Il vaut mieux avoir cet air-là dans la tête que les chansons de Zemmour, évidemment. Ce que je retiens... En fait, quand on me demande de réagir sur l'actualité, je me sens toujours très angoissée parce que je sais pas, en fait. Je suis un peu... Moi, j'ai besoin du temps d'écrire et j'ai besoin des personnages pour voir tous les possibles qu'il y a derrière cette actualité. Sur le moment, je suis assez saisie, en fait. Le présent me dépasse un peu. Enfin, c'est pas pour rien que j'écris, quoi, que j'ai besoin de ce temps-là de recul. Vous dire.
Non, mais si vous avez envie de prendre le temps, vous avez entièrement raison. J'ai prévu qu'on parle des migrants, oui, parce que ça c'est un sujet sur lequel vous avez vraiment pris le temps de travailler, de réfléchir. Vous en parlez dans ce dernier livre, Pas dormir, qui vient de sortir, mais vous l'aviez déjà fait dans La mer à l'envers. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, la semaine dernière, une tentative de traversée de la Manche a coûté la vie à 27 personnes entre Calais et l'Angleterre. Parmi les victimes, qui sont encore en cours d'identification, il y a une jeune kurde irakienne d'une vingtaine d'années qui tentait de rejoindre son fiancé installé au Royaume-Uni. Faustine Calmel.
Elle est le premier visage des 27 disparus mercredi dernier dans la Manche. Une jeune femme souriante, aux longs cheveux bruns, récemment fiancée. Elle avait stoppé ses études pour rejoindre son futur mari en Angleterre. C'est lui qui confirme à la chaîne de télévision BBC que Mariam était sur ce bateau. Sa venue était une surprise, dit-il. Elle l'a contactée via la messagerie Snapchat au moment où le bateau a commencé à se dégonfler. Se voulant rassurante, explique le jeune homme, persuadé que les secours allaient arriver. Depuis l'Irak, sa famille assure qu'elle avait par deux fois demandé un visa pour l'Angleterre sans succès et avait donc décidé de prendre la route en passant par l'Allemagne. Son père s'est confié à la chaîne britannique.
Le monde entier parle de l'Europe comme d'un lieu sûr et agréable. Est-ce cela un lieu sûr? Près de 30 personnes qui meurent au milieu de la mer.
Sa meilleure amie, Iman, poursuit.
Personne ne devrait tenter cela. Personne ne mérite de mourir ainsi. Elle était si précieuse à mes yeux. J'espère qu'elle est au paradis avec mon père.
La famille de Mariam espère désormais que son corps pourra être rapatrié en Irak pour des funérailles dans sa ville de Soran, au nord-est du pays.
Alors, ce naufrage n'est pas le premier, loin de là. Régulièrement, des exilés perdent la vie en tentant de traverser la Manche. Juliette Delaplace, du Secours catholique, fait partie de ceux qui organisent les obsèques des migrants qui périssent en mer. Elle s'est confiée à Faustine Calmel.
C'est très important pour la dignité, en fait, des personnes décédées, mais aussi pour par respect pour leurs proches, pour leur famille, pour leurs amis. C'est un travail très lourd qui nous mobilise énormément depuis fin septembre. Il y a eu énormément de décès et de disparitions à la frontière. Il faut que l'État prenne en charge matériellement, moralement, le soutien des personnes rescapées de naufrage. Il faut qu'ils prennent en charge l'accompagnement des proches des personnes défuntes et puis l'organisation des funérailles ou du rapatriement, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement lourdes émotionnellement et extrêmement lourdes matériellement, et que nous, bien sûr, on est prêt à le faire parce que c'est quelque chose d'une importance immense pour nous, mais c'est très lourd. C'est très lourd et c'est et puis on est épuisé aussi. Et parmi les personnes décédées depuis septembre à Calais, si on regarde chacune des situations, ce sont pour certains des personnes qui avaient une chambre qui les attendait au Royaume-Uni, un oncle, une tante, un endroit où aller se reposer. Et d'ailleurs, ces membres de famille-là, quand il y a eu certains enterrements, là, lors de deux enterrements, des membres de famille du Royaume-Uni étaient présents, sont venus à Calais. Mais quelle horreur, en fait. Quelle horreur que le gouvernement français ne se dise pas, mais il est temps de négocier avec le Royaume-Uni parce que ces gens partiront coûte que coûte et qu'il faut les protéger.
Alors, il y a bien eu des tentatives de dialogue cette semaine, mais on voit à quel point c'est compliqué. Marie Darrieussecq, vous êtes allée, vous, à la rencontre des migrants, ici et ailleurs?
Oui, alors déjà, moi j'habite à Paris, on peut très facilement discuter avec des migrants dans Paris, qui dorment malheureusement pour beaucoup à la rue. Je suis allée à Calais, bien sûr, je suis allée aussi dans les points de départ, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest en particulier, aussi au Niger, là où, à une certaine époque récente, l'Algérie et la Libye refoulaient des migrants de leur pays, jusque dans ce Niger qui est un des pays les plus pauvres du monde. Enfin, c'est quand même le paradoxe. Il y avait des Ghanéens, des Nigériens, des Camerounais plantés là, à Niamey.
Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre, parce que vous en parlez, qu'au Niger, on les appelle des exodés.
Oui, des exodés. Alors, il y a beaucoup de mots. On les appelle aussi des échoués, parfois, parce qu'ils sont vraiment au milieu de là. Moi, j'aime bien l'expression voyageur forcé. Migrant, c'est un mot embêtant parce que ça les maintient en migration pour toujours. Moi, quand j'étais petite, en cours d'histoire géo à l'école, on apprenait les émigrés. Voilà. C'était des gens qui avaient émigré, qui avaient changé de pays, qui avaient bâti une autre vie. Migrant, le participe présent, ça les maintient en voyage permanent. Et c'est le mot, c'est voyageur forcé, hein. Et c'est illégaux forcés aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire, cette jeune Kurde, elle était absolument légitime à retrouver son futur mari. Vous avez entendu comment la famille parle anglais. Enfin, vous vous rendez compte, les gens qu'on perd en mer, quoi. C'est une richesse qu'on perd. Et on les force à être dans l'illégalité. Moi, ça, je l'ai constamment rencontré. Et je suis très, très, très fâchée d'entendre de façon systématique le mot immigration ou migrant associé au mot criminalité ou insécurité, même sur des radios vraiment sympathiques. Il y a une espèce de... On a adhéré à ce tic de langage, en fait, qui est vraiment de l'impensé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre qui montre une corrélation entre les deux, à moins de considérer qu'effectivement, c'est l'illégalité qui les pousse à être dans des situations où ils vont se retrouver face à la police, sans parler évidemment des délits de faciès de la police. Donc c'est très complexe à penser, ce lien entre criminalité et immigration, et il n'est absolument pas direct.
Il y a eu un glissement ces dernières années.
Ils prennent des gardes à vue, ils se retrouvent parfois en prison parce qu'ils sont sans papier. Ou parce qu'ils sont tellement démunis qu'effectivement, ils vont violer. Statistiquement, ils commettent moins de crimes que les gens avec des papiers. Ils commettent moins d'assassinats, ils commettent moins de viols que des gens avec des papiers. Ce sont des données du CNRS. Donc c'est épuisant. Et comme disait la jeune femme, c'est très lourd de devoir expliquer des choses comme ça.
La société a
fait l'amalgame.
A évolué là-dessus ces dernières années.
Et la société s'est
C'est devenu un peu inaudible de s'occuper de ces sujets-là, de parler des droits de l'homme, de parler de tout ça.
On sent une fatigue générale, mais je la comprends très bien. Hein, et je pense qu'on est, il y a une lourdeur qui fait qu'effectivement, enfin, on est moins bien dans notre peau à tous, quoi. On est moins bien. Et il y a une angoisse qui est montée, qui est terrible. Et voilà, je continue à essayer de tenir bon là-dessus, mais...
Qu'est-ce qui nous manque aussi de l'espoir, de ne pas savoir ce qui se passe ailleurs? Parce que vous êtes une écrivaine voyageuse, vous le dites dans... Vous le rappelez dans ce livre. Hein, il y a des tas de photos. Alors, pour en revenir au sommeil, des photos notamment de toutes ces chambres d'hôtel un petit peu partout dans la planète, mais vous êtes allée notamment en Afrique.
Oui, mon bilan carbone est tel que je ne mange plus de viande pour essayer de compenser. On fait ce qu'on peut, mais j'ai énormément pris l'avion. J'ai eu la chance de voyager partout et d'aller dans des endroits aussi où je voyais que les gens partaient, étaient forcés de partir parce que c'était intenable. Mais dans un monde idéal, moi j'aimerais bien que tous les Français soient pas obligés, je suis pas une dictatrice dans l'âme quand même comme d'autres, mais qu'ils aient la possibilité de partir à l'étranger un certain temps, d'aller voir ailleurs comment c'est. Et quand on revient, on trouve que c'est pas si mal la France en plus. La sécurité sociale, les écoles, les routes, les hôpitaux qui n'ont pas assez d'argent mais qui fonctionnent quand même beaucoup mieux que dans d'autres endroits. Et vraiment, on le dira jamais assez, c'est vrai, vive les infirmières, il faut plus les payer. C'est évident, il faut commencer par ça. Les infirmières et les profs, il faut y aller sur l'école et les hôpitaux. C'est quand même, la France n'est pas si mal, hein, mais il faut sortir un peu pour effectivement le voir. Et pas rester enfermé là, avec la peur de tout. Et ça fait monter les émours, évidemment.
Vous avez fait beaucoup de voyages, Marie Dariussecq, notamment au Rwanda. J'ai vu ça, vous avez même animé un atelier d'écriture pour des rescapés, d'anciens enfants soldats.
C'est exactement à eux que je pensais en parlant de traumatisme. Et je me rappelle de deux rescapées, médiatrice, elle avait un nom extraordinaire, c'était ma traductrice, elle s'appelait médiatrice, ma traductrice du Kinyarwanda, et elle dormait la nuit alors qu'elle avait échappé à des trucs affreux, et un autre qui s'appelait Thierry qui lui ne dormait pas, et on picolait tous les deux au bord du lac Kivu, et moi je me disais, mais c'est quoi mon insomnie à moi, mon insomnie mais de patachonne, quoi. J'avais toujours ce mot en tête. Et à Calais, quand je dormais dans un hôtel hyper confortable et que les gamins avec qui je m'étais entretenue dans la journée dormaient dans la gravière, à une époque où il n'y avait plus de tente, plus rien, enfin, où la technique de l'État, quoi, c'était de les chasser systématiquement, y compris à coups de gaz lacrymogène. Bon. Quand on dort dans du gravier, enfin, je me disais, mais comment ça se fait que moi je dors pas? Enfin, il y avait un truc, une grande culpabilité aussi. C'est ça aussi qui nous rend tous un peu tristes en ce moment, et c'est qu'on se sent coupable d'un truc qui nous dépasse complètement. Mais il faut tenir, faut encore y croire, il faut répéter face à des discours de haine, il faut répéter des évidences, il n'y a pas de lien entre immigration et criminalité.
Et éventuellement relire La mer à l'envers, qui est paru en 2019, c'était votre précédent livre. On va parler de vous dans quelques minutes après un peu de musique, Marie Dariussecq.
Casse ton pied, ta tête. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Chica, 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 chica.
voulais pas trop. Le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le stylin blanc, bas un boubou. On fait tout, appelle-nous Foubou. J'voulais seul que tout bouge et secoue. J'mets le fire dans ton igloo. J'frappe à coup de jab comme un nunchaku. Check si tu connais la ref. Mon amboka, le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes.
Chante, danse, yeah.
Fais boumer les boomers, ok.
Slash et s'égayer.
Fais boumer les boomers.
La vie s'éveiller.
Fais boumer les boomers.
Boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boumer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux. Bébé, je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux. Comme le stab bendabilili. Chez nous, y'a pas tube de l'été. Non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines. Mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins. Du rein jusqu'à la roue zizi. Viens me coller un billet sur le front. Pareil que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons. Je fais boum et boum et le caisson.
Chante, danse, yeah.
Fais boumer les boomers, ok.
Slash et s'égayer.
Fais boumer les boomers.
La vie s'éveiller.
Fais boumer les boomers.
Boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boumer les boomers.
Chante, danse, yeah.
Fais boumer les boomers,
ok. Slash et s'égayer.
Fais boumer les boomers.
La vie s'éveiller.
Fais boumer les boomers.
Boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boumer les boomers. Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse hébéter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
C'est Gaël Faye et c'est dans la playlist de Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Marie Darrieussecq. C'était sympa cette petite chanson. Marie Darrieussecq, on va parler de vous, comme si on n'avait pas parlé de vous jusqu'à là quand même. Si, mais plus de votre parcours. Alors, votre livre « Pas dormir », je le disais, il est illustré. Il y a des photos, notamment celle de votre père, mm-hmm. qu'on voit en plein travail. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, était responsable de l'entretien des fonderies.
À Bayonne, les fonderies de Mousserolles. Ouais.
Voilà. Il y a aussi une photo d'une de vos grand-mères. Mm-hmm. Alors, j'ai découvert, elle était, comment dites-vous ?
Ramandeuse.
Ramandeuse, expliquez-nous.
Et ben elle ramandait les filets de pêche sur le port à Saint-Jean-Luz. C'est-à-dire qu'elle les reprisait parce que les filets sont toujours plein de trous quand on ramène une grosse pêche. Et donc, à 4h du matin, les chalutiers arrivaient. Justement, elle avait un très bon sommeil. Elle se levait quand elle voulait, elle dormait quand elle voulait. Et elle avait toujours des mains toutes jolies, très manucurées. Et c'était son chic à elle. Elle travaillait dans les filets mouillés, comme ça, d'eau de mer. Elle, en particulier, les méduses, ça leur attaquait les mains aux ramandeuses.
Ah oui,
mais elle rentrait chez elle se refaisait sa manucure. Enfin, j'étais très, très admirative de la force de cette grand-mère.
Voilà, et l'autre, elle était chapelière et elle était insomniaque, si j'ai bien noté. Voilà.
Oui, elle travaillait du chapeau, comme on disait. Oui.
Votre maman, vous l'avez dit, était professeure de français.
Oui.
Là, on se dit qu'avec une mère prof de français, forcément, on part avec une longueur d'avance dans la vie littéraire, Marie Darrieussecq.
Oui.
Il y avait forcément beaucoup de livres chez vous.
Il y avait beaucoup de livres, mais mon père était aussi un très grand lecteur. Et c'était un littéraire contrarié, mon père. Ses parents l'avaient un peu obligé comme ça, parce qu'il faut bosser, quoi, à avoir un métier technique. Et il avait un bac pro technique, mais c'est toujours un immense lecteur. Il lisait Faulkner, alors que c'est très difficile quand même. Et j'admire beaucoup ces lecteurs spontanés comme ça.
Il paraît que vous avez appris à lire toute seule dans les albums d'Astérix.
Oh, vous savez tout. Mais mon père, justement, me lisait Astérix le soir. Et j'ai fait le lien, effectivement, entre ce que mon père disait et le contenu des bulles. Le texte était bien séparé comme ça de l'image, et l'image aidait à comprendre. Je crois que j'ai appris comme ça. Et effectivement, quand j'ai débarqué au cours préparatoire, on s'est aperçu que je savais lire.
Voilà, et chez les Darrieussecq, le vendredi soir, c'était ça. Générique d'apostrophe, Marie Darrieussecq.
Ah oui, mais mes parents regardaient Pivot religieusement.
Et vous, il paraît qu'avec vos poupées, vous reproduisiez l'émission. Alors là, je me suis dit, mais il faut absolument qu'elle nous explique comment elle faisait. Est-ce qu'il y avait une poupée qui représentait Pivot, puis une autre qui représentait les invités? Expliquez-nous.
Alors, c'était plutôt des Playmobil, à vrai dire. Mais oui, je jouais à... Je jouais à la télévision, oui. Alors, il n'y avait pas que Pivot, mais je jouais à ça. Et puis, je me rêvais en écrivaine, mais je vous parle de l'âge de 6 ans, hein, donc des rêves très...
Il n'y a pas d'âge pour les vocations.
Voilà. Mais du fond de mon village, oui, je voulais écrire, et je voulais aussi tout ce qui va avec l'écriture, c'est-à-dire le succès, les lecteurs, le public, les librairies et Bernard Pivot.
Et vous avez commencé à écrire très tôt.
J'ai commencé à 6 ans. Mais ça ne gage de rien. Tous les enfants ont une activité artistique, dessin, danse, chant. Ce qui est plus curieux, c'est quand ça franchit l'adolescence. Quand ça tient là, il faut laisser les gamins y aller, quoi. Ouais.
Bien sûr. Alors, juste une petite curiosité concernant le journal intime. Vous ne l'avez pas écrit, vous l'avez parlé.
Absolument.
Ça m'a aussi interpellée, parce que en fait, vous l'avez enregistré. Vous avez fait une sorte de podcast avant l'heure, si j'ai bien compris.
Ce podcast, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, j'ai une boîte de cassettes. J'ai toujours cette boîte grâce à laquelle j'ai écrit un de mes romans, Clève, qui s'appelle Clève. Voilà, qui est vraiment un roman sur cette adolescence dans les années 80 en province. Oui, parce que moi, j'aime la fiction. J'aime les personnages de romans. J'aime les sagas romanesques comme ça, ou les romans très courts, fantastiques. Enfin, je suis dans l'imaginaire. Il y a ce pas de côté de la fiction permet de dire le réel, pour moi en tout cas, de façon plus efficace. Et tenir un journal, ça m'ennuyait parce que c'était déjà là. Enfin, j'avais plus qu'à redire ce qui s'était passé. Et donc, je l'ai enregistré sur cassette, ça allait plus vite.
Ah ben, c'était une bonne idée. L'essentiel, c'était de garder la cassette.
Et la voix est très troublante. La voix, les bruits, c'est comme de la radio qui vient du passé, quoi. C'est bizarre.
Vous avez grandi donc au Pays Basque, oui. Marie Darrieussecq. D'ailleurs, une petite question à propos de votre langue maternelle. C'est le basque.
C'est la langue de ma mère. Elle me l'a parlé quand j'étais petite. Je le comprends, mais je ne le parle pas.
Et vous avez grandi à quel endroit? Dans un
petit village derrière Bayonne et Biarritz. Voilà.
Pas loin de l'océan?
Oui, à 10 minutes de l'océan.
L'océan, ouais. Qui vous manque, forcément.
Oui, à Paris. Oui, Paris est une ville magnifique, mais au bout de la Seine, il faudrait qu'il y ait des vagues.
On est bien d'accord. Vous avez fait le lycée à Bayonne, ensuite Hippocagne et Cagne à Bordeaux,
oui,
si je ne me trompe pas. Puis il y a eu Paris, mm-hmm. l'École nationale normale supérieure. Mm-hmm. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres modernes, doctorat de lettres. Et puis alors, il y a eu le premier roman publié mm-hmm. en 1996, le fameux Truisme. Énorme succès pour ce premier roman. Il y a eu des critiques très dures à l'époque,
oui.
Mais les lecteurs ont adhéré, hein, et votre maman aussi.
Quand vous avez lu ce drôle de livre, comment avez-vous réagi?
Ce n'est pas un drôle de livre. C'est un livre étonnant, mais Marie a toujours écrit des nouvelles, des histoires qui ont un côté fantastique, et ce côté-là ne m'étonne pas du tout. Maintenant, je trouve que c'est un livre très très fort où elle a dit ce qu'elle avait à dire.
Voilà, c'est un extrait d'un journal télé de FR3 Aquitaine qui est achevé par Lina. Mm-hmm. Tout est dit en quelques secondes.
Ah ben oui, je ne suis pas sûre que je connaissais cette archive, mais ben oui, je reconnais l'accent de ma mère et elle m'a toujours laissé faire. Il y avait une confiance pour ça, oui. Et
ce livre a été un tournant, Marie Darrieussecq, puisque quand même, à connaître le succès comme ça à 27 ans, ça change tout, ça donne quoi? Une certaine aisance, ça permet de se libérer l'esprit de...
Oui, ça m'a rassurée, c'est-à-dire j'avais un poste de prof que j'ai pu quitter, et ça c'est un luxe absolu, enfin, c'est extraordinaire. Moi, mon rêve vraiment de gamine, c'était de ne faire qu'écrire, de passer mes journées à écrire. Ce qui est aussi très difficile par ailleurs, mais j'avais une liberté... La liberté m'était donnée, c'était magique.
Et alors, vous avez beaucoup écrit depuis, une quinzaine d'ouvrages au moins. Il y a des essais, des romans, des nouvelles, de la littérature jeunesse, des traductions. Vous êtes traductrice.
En écoutant Joséphine Baker, je pensais à James Baldwin.
Que vous avez traduit.
Voilà, c'est formidable de pouvoir redonner à lire des immenses auteurs comme ça, oui.
Donc tout vous intéresse, vous écrivez pour le théâtre, vous enregistrez certains de vos livres aussi.
Aux éditions des femmes.
À l'oral. Vous êtes marraine de Bibliothèques sans frontières, j'ai bien vu. Vous occupez d'une association dont on aurait pu parler, mais on n'aura pas le temps ce soir. Des victimes du distilbène dont vous faites, dont vous faites
un
partie.
Un scandale médical, oui, qui nous a touchés, oui.
Et qui continue de provoquer des dégâts, évidemment. J'ai cru comprendre que vous aviez un projet de livre que vous vouliez appeler Fabriquer une femme.
Ah oui, alors, vous êtes bien enseignée.
Ça en est où, ça?
C'est en cours. J'écris souvent plusieurs livres en même temps. Celui-là, en ce moment, est un peu en sommeil, mais il est toujours là. Il scintille dans le noir là, de mes insomnies. Il va revenir à un moment.
C'est quoi? C'est sur un peu le moment. C'est MeToo. En fait, c'est la question du consentement.
Ces questions m'occupent évidemment depuis très très longtemps. Enfin, truisme était né en particulier de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le harcèlement de rue. Et heureusement que maintenant il y a des mots pour nommer ces phénomènes. De ma colère de jeune femme d'être sans arrêt interrompue dans la rue. Donc non, toutes ces choses sont très présentes. Je travaille toujours avec deux personnages qui s'appellent Rose et Solange, qui me suivent de livre en livre, qui viennent aussi de mon village, hein, c'est des personnages fictifs, mais... Et là, je vais m'intéresser un peu plus à Rose. Enfin, c'est des choses, c'est pas du tout un feuilleton, on peut lire mes romans différemment, mais il y a eu un moment dans ma vie d'écrivaine où je me suis lassée d'inventer des personnages, et où j'ai repris ceux qui étaient déjà là dans mes romans précédents.
Sur MeToo, encore un petit mot.
Ça a été très important.
Cette nouvelle génération qui prend les choses en main, ça...
Elle est géniale, cette génération.
Ça change tout, quand même. Ah ouais,
elle est formidable, cette génération. Quand j'étais jeune, à l'époque de Truisme, en 96, je me rappelle, il y a un entretien, et c'est ma fille qui me l'a fait remarquer, celle qui a 17 ans maintenant. Je dis, bon, je ne suis pas féministe, mais... Parce qu'à l'époque, on n'osait pas le dire, on n'osait pas l'affirmer. Et là, heureusement... L'époque est féministe, qu'on le veuille ou non. Et les jeunes femmes dans la rue peuvent arpenter la ville avec une liberté qui n'est pas encore complète, hein, loin de là. Mais elles savent au moins sur quoi elles peuvent protester. À l'époque, on ne savait pas. On prenait des mains aux fesses, on pensait que c'était une sorte d'état de nature. Aujourd'hui, on sait que c'est intolérable. Mais rappelez-vous, Claire Savageon, on est à peu près de la même génération.
Oui, mais
on subissait des choses sans protester.
C'est quand même un certain nombre à penser que c'était pas normal et que
je suis d'accord avec vous.
Et qu'il fallait faire avancer les choses.
Je suis d'accord, j'étais comme ça aussi. Mais se plaindre était très difficile. On n'était pas comprises là-dessus. Hein.
C'est vrai qu'il y a eu. C'était compliqué.
Les frotteurs dans le métro, on subissait ça comme ça faisait partie de la journée. C'était quand même horrible.
Puis beaucoup de choses pour lesquelles il a fallu lutter. Hein,
ouais,
quand
exactement.
La parité politique est arrivée, oulala, quel combat ça a été. Mais
et
bon,
les salaires ne sont toujours pas égaux.
C'est toute une histoire. Allez, on me fait signe que c'est terminé. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Marie Darrieussecq, c'est Pas dormir, c'est chez POL. Comme toujours, on vous dit un immense merci d'être venu ce soir.